La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. La diffusion récente d'une technologie qui nous relie directement et en permanence à des satellites a progressivement modifié notre rapport au monde. Peu à peu, sans qu'on s'en aperçoive véritablement, le GPS qui équipe nos smartphones a remplacé souvent la carte traditionnelle que nous avions l'habitude de consulter. Et si nous profitions de ce trouble pour mettre en œuvre de nouvelles expériences du rapport au monde, de nouvelles manières de nous représenter la Terre? C'est ce qu'ont entrepris deux architectes et une historienne des sciences, explorer une Terre qui nous demeure encore largement inconnue, l'explorer dans une forme d'urgence avant qu'elle ne se dérobe sous nos pieds. Ces deux architectes se nomment Alexandra Arène et Axel Grégoire et l'historienne des sciences Frédéric Haït-Touati. Toutes les trois signent Terraforma, un manuel de cartographie potentielle qui paraît aux éditions B42 et dont nous parlerons aujourd'hui. Et de terre, de sol qu'il s'agit d'arpenter de multiples manières, il sera question également dans la deuxième partie, alors que nous rejoindra Maïlis de Kerangal, qui a fait paraître il y a quelques semaines aux éditions La Contre-Allée, Kiruna, du nom d'une ville au nord de la Suède, une ville dans laquelle se trouve une gigantesque mine qu'a explorée Maïlis de Kerangal, donc qui nous rejoint dans cette deuxième partie d'émission. Mais commençons par ces expériences, parce qu'il s'agit bien de cela, Frédéric Haït-Touati, d'expériences que vous avez faites, que vous avez imaginées, mais que vous invitez vos lectrices et vos lecteurs à faire. C'est un livre qui nécessite ou exige une forme de gymnastique mentale qui n'est pas la gymnastique mentale habituelle, celle qu'on déploie quand on lit un livre composé de mots, de phrases, de lignes. Certes, il y en a, il y a du texte, mais il y a aussi des cartes, il y a aussi des schémas, des diagrammes qui nous invitent à travailler notre rapport au monde et ses représentations. C'est un objet éditorial de ce point de vue extraordinairement singulier que Terraforma, Frédéric Haït-Touati.
Oui, vous parlez d'expérience, je crois que c'est le bon terme. Il y a un désir de pratiquer des gestes intellectuels, mentaux, spatiaux, et de se servir de tous les moyens du papier et du livre pour ce faire. Donc on est parti de plusieurs gestes que sont par exemple le retournement, l'inversion, avec une idée principale qui était que finalement les cartes dont nous disposons sont des manières de se représenter l'espace, un espace extrêmement vide, vide de vivant, un espace parcouru, magnifique, parcouru de sillons, de routes, de topographie, mais un espace très très peu peuplé. Et donc l'un des premiers gestes que nous invitons le lecteur à faire, c'est un geste de retournement des représentations, et avec cette idée de partir plutôt des mouvements, des actions, des déplacements, pour composer petit à petit un espace. Donc c'est une série d'expériences, et l'une des expériences essentielles également est celle de rentrer à l'intérieur de la Terre, finalement, comme une espèce de voyage au centre de la Terre, avec cette idée qu'on pourrait petit à petit, par le graphisme, par le récit, par une expérience de pensée, essayer de voir sous terre, sous la peau de cette Terre que nous parcourons d'habitude sans trop nous interroger sur ces profondeurs.
On voit bien la suite de ce livre pour vous par rapport à votre travail. Vous étiez venu il y a un moment parler d'un livre qui nous amenait à visiter la Lune et visiter l'espace à partir des fictions. Il y a des siècles de ça, pas en 1969, bien plus tôt, on pouvait visiter la Lune grâce à des textes de fiction écrits par des scientifiques. Là, c'est le centre de la Terre. Mais c'est aussi à partir d'expériences professionnelles et intellectuelles que vous ont rejointe deux architectes. Alors l'une des deux est avec nous, Axel Grégoire, aujourd'hui. C'est aussi en vous appuyant sur des expériences qui concernent des territoires concrets sur lesquels vous aviez travaillé comme architecte que vous avez pu élaborer avec Frédéric Haït-Touati ces expériences, Axel.
Oui, c'est ça. En fait, avec Alexandra Arène, avec qui j'ai l'habitude de travailler, On est des architectes, mais on travaillait en agence de paysage. Donc déjà, c'était le premier... Première découverte du vivant, en fait, et du lien du vivant à l'aménagement. Et dans ces projets, on s'est confronté à des freins, justement, pour passer de l'aménagement du vivant au vivant dans l'aménagement. Et on s'est dit que nos représentations engendraient des actions. Et pour changer les actions qu'on a sur le territoire, peut-être qu'on pourrait refabriquer de nouvelles représentations, en tout cas, bricoler des outils pour pouvoir... amener justement ce regard à changer. Et du coup, effectivement, on est parti des territoires qu'on connaissait, qui ont forgé un peu toute la data dont on sert, comme ce réservoir de données, en fait, pour fabriquer ces outils qu'on nomme aussi modèles.
Alors, quand on lit, quand on prend connaissance de ce livre, on voit tout de suite ce qu'on gagne, au fond, dans le passage à d'autres modes de représentation, parce que vous démarrez chacun des chapitres par une mise en parallèle d'anciens modes de représentation auxquels on est habitué. Alors je prends le premier exemple, celui du nord sur une carte. Donc il y a toujours une flèche qui nous indique le nord. On est très habitué à ça, on est conditionné, notre lecture s'organise grâce à cela. Au fond, vous mettez à côté une autre manière un autre repère, d'autres coordonnées en quelque sorte avec lesquelles on peut travailler. Ça, c'est le premier exemple. Il y a beaucoup le livre est structuré de cette façon-là. L'entrée dans chacun des moments du livre, des chapitres du livre procède de la sorte. Frédéric Aitouati.
Oui, il y avait une envie de déplacer comme ça les paramètres de la cartographie. Encore une fois, on est des amoureuses des cartes. Il y a une longue histoire de la cartographie dont on s'est nourri. Et ce qui est frappant quand on lit les historiens de la géographie, comme Jerry Broughton, c'est qu'il rappelle à quel point les cartes ne sont pas fixes. Évidemment, elles disent un état de notre rapport au monde. Elles disent un moment. Et on avait envie, en quelque sorte, de rebattre les cartes sans faire de... Mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment un jeu de cartes au sens où on prend les règles du jeu et on les infléchit un petit peu. Donc le nord, effectivement, peut être réorienté en quelque sorte vers le sol, qui est un petit peu notre point de référence aujourd'hui. On le sait, le sol s'effondre, le sol glisse, s'effrite. Il n'est plus stable, il n'est plus cette espèce de théâtre permanent et fixe de nos actions. Et donc... En suivant simplement ces propositions qui sont issues de nos lectures de philosophie contemporaine, on lit beaucoup Stengers, Tsing, on lit beaucoup aussi les géophysiciens, Jérôme Gaillardet, les scientifiques. Et finalement, ces lectures-là nous ont induites à proposer ces petits infléchissements. Donc effectivement, c'est un jeu comme ça de décalage des paramètres classiques de la cartographie.
Il y a un nom que Frédéric n'a pas cité, mais qui est très important, et ils travaillent beaucoup ensemble, c'est celui de Bruno Latour, puisque la question, Bruno Latour insiste beaucoup sur le sol aussi, la question de son dernier livre, où atterrir, est vraiment celle-là. C'est-à-dire, finalement, c'est au moment où ce sol donne le sentiment, nous donne le sentiment de se dérober vraiment sous nos pieds, qu'on n'est plus comme avant, bien campé sur la terre, mais on est sur quelque chose qui est en train d'évoluer probablement rapidement. Donc il y a une forme d'urgence aussi dans votre travail, Axel Grégoire.
Oui, c'est sûr. Et cette idée justement de retravailler sur les outils, de se réarmer pour trouver le moyen de se réancrer dans les territoires et d'atterrir, pour citer Bruno Latour. Pour nous, cette exploration, elle passe par le dessin. Et c'est pour ça que, justement, on a fait le choix aussi de la 2D, de dessin simple, finalement. On est parti de la feuille blanche et on a commencé à dessiner.
Oui, parce qu'on aurait pu imaginer la même chose avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui pour faire de l'animation sur des écrans en 3D, etc.
Ben oui, c'était une autre option qu'on n'a pas choisie et volontairement parce qu'il y avait cette idée de simplicité, de revenir justement à des formes archétypales qu'on a détournées. Et pour nous, c'était justement ces outils-là, c'est le bagage qu'on peut aussi partager en fait. Et c'est pour ça qu'on a donné une importance dans le livre à vouloir partager les gestes graphiques et expliquer comment ils sont construits. pour justement construire ensemble aussi ces outils de réancrage et d'atterrissage dans ce monde mouvant.
C'est aussi demander un effort au lecteur auquel il n'est plus habitué. Je commençais l'émission en parlant des GPS. C'est vrai qu'on ne fait plus travailler notre cerveau de la même façon par rapport à un territoire, dans la mesure où on se laisse guider et donc réapprendre à s'orienter et en utilisant d'autres repères. C'est l'un des paris de ce livre aussi.
Oui, c'est d'ailleurs le pari un peu fou de multiplier les outils plutôt que d'en avoir un seul. C'est-à-dire que finalement, on pourrait lire les 7 chapitres comme 7 outils qui n'ont rien à voir. Enfin, à chaque fois, il y a cette idée qu'il y a une question qui nous est posée, qui est souvent une question politique, hein, la question des sols, mais aussi la question des frontières, la question de l'espace-temps, de l'accélération, la question de la mémoire, des ruines, des archives, d'une orientation dans le temps. Et toutes ces questions-là, c'est notre pari, ne peuvent pas être abordées avec un seul outil. Et donc, il y a une espèce d'envie comme ça, de démultiplication qui peut paraître un peu foisonnante, touffue à la lecture. Mais finalement, il en faudrait encore d'autres. Avec cette idée que pour chaque question, par exemple pour la frontière, on ne peut pas aborder la frontière en se limitant, en se contentant de ces lignes claires que nous sont proposées sur les cartes en couleur de notre enfance. Donc voilà, si la frontière est un ruban de Möbius, si on écoute l'idée de la trading zone, l'idée d'une frontière comme épaisseur plutôt que comme ligne, eh bien qu'est-ce que ça produit.
Ça peut produire le travail de Saskia Sassen, par exemple, sur les frontières. Mais pour prendre un autre exemple, donc on a vu le premier repère, c'est à la place du Nord, penser plutôt vers l'intérieur, vers le centre de la Terre et retourner le globe terrestre comme un gant, écrivez-vous. Mais pour ce que vous appelez point de vue, la deuxième, c'est assez simple aussi, c'est-à-dire que le point de vue des cartes, c'est ce qu'on appelle le point de vue de Sirius, donc ce surplomb. Et là, vous proposez un mode d'objectivation du monde, de la Terre, qui part au contraire de ceux qui l'habitent, quel qu'il soit. Et l'idée, c'est de produire des représentations qui partent de soi ou des autres, qu'ils soient humains ou non humains, d'ailleurs, Axel Grégoire.
Oui, c'est ça, en fait. D'ailleurs, la formule point de vue nous a beaucoup aidé, qui est empruntée à Emmanuel Ecocha. Et en fait, l'idée, c'était de passer du point de vue au point de vue et de montrer à quel point ce point de vue génère de l'espace. Et la question de la carte, du coup, c'est de mettre en commun, enfin, de rassembler tous ces points de vue dans un même espace et de penser cette scène de cohabitation et de négociation. Et c'est pour ça que le point de vue était très intéressant et nous a permis de penser à un autre système aussi de notation avec une grammaire très simple pour pouvoir partager ça lors de workshops aussi qu'on a testé et que chacun puisse dessiner en fait son terrain de vie comme on l'appelle.
Je rebondis là-dessus parce que cette histoire de point de vue de Sirius et de point de vie, finalement c'est un petit peu notre parcours à toutes. Alors, comme vous le disiez, moi, je reviens de la Lune, hein, donc il y a eu une espèce de moment d'atterrissage grâce à Alexandra et Axel et à toutes ces lectures que nous menons ensemble depuis des années. Mais finalement, c'est un petit peu le parcours que l'on propose au lecteur. C'est cette vision de la Terre comme un globe vu de loin, qui est cette fameuse bille bleue produite par cette photographie extraordinaire, iconique de la NASA. Elle est fascinante, elle nous a fascinés, moi elle m'a fascinée, c'est l'histoire de ces images-là, l'histoire de la Terre vue de loin, reste quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, comment on arrive, comment on s'apprivoise, ou on apprivoise un autre regard, un regard beaucoup plus horizontal, pourquoi pas des profondeurs, enfin, c'est presque un jeu optique, cette histoire. Donc effectivement, c'est aussi presque un geste à la fois, je dirais, optique, physique, sensible, intime, d'accepter d'atterrir et de regarder à ras de terre.
Comment vous avez concrètement articulé, je dirais, ce qui est produit par les mots, par les phrases, le texte qui constitue ce livre, et puis les autres éléments qui constituent au même titre ce livre, c'est-à-dire les dessins dont vous parliez, les schémas, et très concrètement, comment vous avez travaillé ensemble, Axel Grégoire?
C'était vraiment un va-et-vient, en fait, entre nous. En fait, c'est une suite de discussions qui ont construit aussi le fil des chapitres. Et on écrit qu'on a dessiné les textes et écrit les images. Et c'est vraiment ça, parce que finalement, on a partagé nos outils, on les a mis sur la table, on les a aussi démontés, remontés. Et c'est pour ça que le texte et les images sont si imbriqués, parce que finalement, on s'attaque aussi à la légende de la carte. Et on a pensé un peu la légende de la carte comme justement un texte parallèle aussi. Et c'est en ça que nos disciplines ont pu dialoguer.
Et j'ajouterais qu'il y a un plaisir immense pour quelqu'un comme moi qui a toujours travaillé plutôt le texte, à brusquement, grâce aux extraordinaires outils et compétences graphiques et artistiques, pour moi c'est aussi un livre d'art d'Alexandra et Axel, de pouvoir explorer cette dimension-là graphique. Et en fait, moi je me suis beaucoup amusée en pensant évidemment à Tristram Shandy de Stern, mais aussi à Lewis Carroll, à Pérec, c'est-à-dire à l'idée de brusquement avoir un texte déjà pensé à plusieurs, mais où l'image a un rôle pas du tout d'illustration. L'image est absolument cruciale, c'est elle qui fait avancer la réflexion, elle s'imbrique avec le texte, et donc on peut choisir de lire ce livre comme un livre d'images, en se laissant un petit peu porter par les cartes, on peut le lire par les rapports de fabrication, on peut le lire par le texte, par les légendes, et finalement tout cela est totalement un jeu. Il y a un aspect très ludique aussi, peut-être qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'on les références littéraires, pour moi, sont centrales. Il y a un jeu avec le plaisir visuel de l'écriture et avec le plaisir graphique.
Qui peuvent être très anciennes, vous parliez de Lewis Carroll, etc., mais aussi très contemporaines, parce qu'évidemment, on trouve Philippe Vasset dans les notes de bas de page, et son livre blanc, son intérêt pour les cartes et pour l'exploration. Tout ça me semble participer du même souci, au fond. Et puis c'est un livre dans lequel il faut probablement se perdre, revenir en arrière, retenter des expériences, parce que certaines, on n'y arrive pas du premier coup. Il y a des formes d'abstraction assez, assez fortes. Mais néanmoins, je voudrais revenir avec Axel Grégoire sur l'idée que vous énonciez tout à l'heure au fond, ce qu'on retrouve dans le choix du mot manuel pour caractériser ce livre, c'est-à-dire que c'est un outil, et que c'est un outil qui peut servir à des architectes comme vous, mais j'imagine aussi aux gens avec lesquels vous travaillez, qui peuvent être les habitants d'un quartier, d'une ville, ou les responsables politiques de ce même quartier ou d'une ville, enfin tous les interlocuteurs qu'on peut avoir quand on travaille très concrètement sur un projet de restructuration, par exemple.
Oui, on tenait beaucoup à ce sous-titre, en fait, manuel, puisqu'il y avait l'idée de partager, de travailler ensemble et de créer des outils de collaboration aussi. Et peut-être qu'il y a deux exemples dont on peut parler qui sont des sortes d'applications des deux premiers modèles. Déjà, Alexandra Arène qui travaille justement avec ce modèle sol, avec les scientifiques de la zone critique pour tracer le carbone dans le sol. Donc ça, c'est une première application très scientifique. Et puis une deuxième, ça serait d'utiliser justement le modèle paysage vivant, en fait, dont je parlais, avec les terrains de vie, dans des workshops où il s'agit pour chacun de dessiner son terrain de vie et de voir justement là où il y a des zones de friction, comment on peut travailler ensemble.
Du coup, c'est-à-dire, très concrètement, c'est repérer, indiquer les trajectoires, les déplacements.
C'est partager aussi le code de dessin. Pour qu'on puisse penser ce dessin comme un moyen d'empowerment aussi. C'est-à-dire dessiner sa carte, c'est aussi s'ancrer dans son territoire, donner des outils de description à chacun, disons. Et effectivement, après, je pense que chaque modèle a des objectifs assez différents, peut s'appliquer à des territoires différents. Et peut-être que les modèles de la faim, espace-temps, ressources, mémoire sont aussi ceux qui peuvent être le plus prospectifs du point de vue de l'urbanisme, c'est-à-dire qui posent la question de la réactivation des paysages en ruine, qui posent la question de la recréation de filières autour des biomes qu'on dit morts. Du coup, je pense que ces outils-là, du point de vue professionnel, peuvent être assez efficients.
Frédéric Atuati, vous avez, outre la pratique de chercheuse au CNRS, une autre pratique de théâtre, de mise en scène. Dans quelle mesure cette réflexion aussi est quelque chose qui fait écho aux questions que vous vous posez dans les propositions de théâtre que vous êtes amené à faire?
En fait, ce qui est très frappant pour moi, c'est de voir à quel point la cartographie, l'architecture, le théâtre et l'histoire des sciences ne sont qu'une seule et même chose dans ma façon de travailler.
Une très grande cohérence.
J'ai l'impression, mais peut-être qu'elle est imaginaire. C'est des questions d'espace, c'est des questions de manière d'habiter. Le monde. Et finalement, l'un des modèles pour moi de...
Et c'est du spectacle vivant.
Parce
que absolument. Le mot vivant est aussi
Exactement, c'est
central.
Des cartes vivantes et du spectacle vivant. Donc l'un des modèles d'écriture pour nous, ça a été la Micrographia de Hooke, qui est l'un de mes livres préférés au monde, je crois, qui est un livre de microscopie, où on découvre un nouveau monde grâce au microscope. Donc là, on voit bien la référence à l'optique, imaginer différentes optiques pour voir le monde autrement. Mais finalement, Micrographia de Hooke, c'est aussi un Theatrum Naturae, dans la grande tradition des théâtres livresques.
C'est-à-dire 1665, façon... je regardais la
1665.
Note de ma page,
voilà. Et les Theatrum Naturae, c'est ces grands livres extraordinaires qui donnent à voir le monde, Theatrum au sens de rendre visible. Donc voilà, il y a une espèce de lien, de communication très étroite pour moi, mais comme pour beaucoup de gens, et puis depuis longtemps, hein, donc entre le livre, l'espace du plateau de théâtre et l'espace du monde. Et c'est un petit peu le livre et la scène, deux manières d'approcher différemment une question qui est centrale aujourd'hui dans notre monde de l'anthropocène, c'est comment le théâtre des humains et le théâtre géologique, le Theatrum Mundi et le Theatrum Naturae se retrouvent. Comment faire en sorte pour que ces deux scènes qui ont été séparées pendant si longtemps se rejoignent?
Alors il y a d'autres modèles, puisque le livre est construit autour de ces modèles dont on n'a pas parlé, celui des ressources, par exemple, ou celui de la mémoire, parce qu'il y a une dimension du temps, du passé, une dimension palimpseste souvent de ces territoires sur lesquels vous avez travaillé, Axel Grégoire.
Oui, par exemple, celui de la mémoire, c'est comme un tableau de bord d'un vaisseau qui ne nous amène pas dans l'espace, mais dans le temps. Les modèles viennent aussi de questions qu'on avait dans la pratique, c'est-à-dire la coïncidence des temps, par exemple du temps du projet, du temps de la ville, du temps du vivant, qui ne sont pas forcément équilibrés et qui ne coïncident pas. Et justement, ouvrir sur la question de la mémoire, c'est aussi ouvrir sur des temps potentiels, c'est-à-dire comment... Enfin, on voit ce dernier chapitre comme une sorte de boussole de navigation où il est question de l'habitabilité des sites et du degré d'habitabilité des sites si on les réactive après les ruines. Et du coup, effectivement, on reboucle avec le sol par le temps puisqu'on peut lire à travers les strates de sol, en fait, ce qui s'est passé, mais aussi ce que ça peut ouvrir sur de nouveaux futurs, en fait.
Ouvrir, ça renvoie à potentiel, qui est l'autre mot qu'on trouve dans le sous-titre. C'est un ouvroir aussi, d'une certaine façon, ce manuel. Là, la référence, vous disiez tout à l'heure, ludique, c'est évidemment celle à Pérec que vous faisiez. Mais il y a cette idée de parce que ça fait écho au mot d'empowerment dont parlait Axel tout à l'heure. C'est l'idée aussi de donner ses potentialités à ceux qui voudront bien s'en saisir, Frédéric Aitouati.
Oui, ça c'est la part politique, on espère en tout cas, du livre revendiquer. Juste une anecdote, une amie qui revient de Détroit me racontait récemment qu'ils sont en train de construire, de dessiner des cartes des différentes propriétés dans Détroit et que ces cartes sont ou bien des cartes d'empowerment pour les gens qui essayent de se défendre, ou bien si elles sont sur Internet et si elles sont visibles, des outils destructeurs qui peuvent être saisis par des promoteurs immobiliers. Donc on voit bien que la carte, elle peut être retournée, elle aussi. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'optimisme dans notre livre qui dit, voilà, on va faire des cartes, des nouvelles sortes de cartes pour que les gens se saisissent de leurs questions. Mais on sait bien toujours que la carte peut être ressaisie. La carte est aussi traditionnellement un outil de guerre, un outil de prise de territoire. Donc cette question de qui habite, qui maîtrise les cartes, qui maîtrise l'habitabilité, qui décide de l'agency des cartes est une question absolument centrale aujourd'hui. Donc on aimerait que les gens produisent leurs propres outils au fond selon les questions, selon les problèmes qu'ils ont avec lesquels ils doivent se mesurer, que ce soit des questions de terre en ruine, de pesticides, d'eau. On a vraiment l'impression qu'il faut démultiplier tous ces outils-là pour agir aujourd'hui dans un sol abîmé.
On atterrit dans la deuxième partie de l'émission au nord de la Suède, à Kiruna. Mais avant ça, il neige, version live de Jean-Louis Murat sur un album qui vient de paraître.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
J'ai cherché une mine comme on cherche un point de passage dans le sous-sol terrestre, un accès aux formes qui le structurent, aux matières qui le composent, aux mouvements qui l'animent, à ce qu'il recèle de trésors et de ténèbres, à ce qu'il suscite comme convoitive et précipite comme invention. Je l'ai cherché comme on cherche la porte de cet espace inconnu sur quoi s'appuient nos existences, espace dont je ne sais s'il est vide ou plein, s'il est creusé d'alvéoles, de grottes ou de galeries, percé de tunnels ou aménagé de bunkers, s'il est habité, s'il est vivant. J'ai voulu descendre dans la mine, passer la tête sous la peau de la planète, comme on passe la tête sous la surface de la mer, afin d'entrer dans une autre réalité aussi déterminante et invisible que l'est l'intérieur du corps humain. J'ai voulu vivre cette expérience, j'ai voulu l'écrire. Je suis parti à Kiruna. Bonjour Maïlys de Kerangal.
Bonjour.
Je viens de lire juste une page de Kiruna, ce petit livre que vous avez fait paraître il y a quelques semaines et qui est le récit de ce voyage que vous évoquez dans cette page. Et jamais depuis que la suite dans les idées procède en faisant se rencontrer des chercheurs et des artistes, j'avais eu l'impression que deux livres s'emboîtaient à ce point entre ce Kiruna que vous faites paraître et Terraforma dont nous parlons depuis le début de l'émission. C'est les mêmes mots qu'on retrouve et surtout le même souci, le même type d'expérience au fond qu'il s'agit d'entreprendre.
Alors je pense que ça tient sans doute à une égale fascination pour les cartes, celle que j'entretiens et celle que Frédéric, Aït Touati, Alexandra et Axel Grégoire entretiennent aussi. Cette fascination pour les cartes, elle est ancienne et c'est vrai que moi je la mets en rapport avec l'idée même de la fiction, dans la mesure où, pour moi, la carte est une sorte de première fiction de l'espace. Hein. C'est une première représentation dont on peut faire, évidemment, varier les points de vue. Et le terme de légende, hein, on légende une carte, évidemment, a une résonance assez forte. Et c'est vrai que depuis quelques années, enfin, je pense surtout depuis un roman qui s'appelle Naissance d'un pont, la question du territoire, la question de l'espace et comment la fiction peut s'y implanter, comment est-ce que le roman ou la nouvelle, en tout cas la fiction, a besoin de se donner un sol, et en ce qui me concerne, des milieux physiques, sensoriels, des milieux dont la matérialité peut donner lieu à une description. Et notamment cet enjeu de la description qui est très présent dans mon travail et de plus en plus, et ça s'est encore beaucoup intensifié dans ce livre-là et dans le livre précédent, Un monde à portée de main. Je pense que tout ça nous relie beaucoup avec les auteurs de Terraforma.
Alors à Kiruna, on atterrit, votre livre commence par ça,
ouais,
on atterrit,
c'est vrai.
Et on atterrit dans une zone critique parce que vous allez vous intéresser à précisément au sol, vous y allez parce que c'est une mine exploitée depuis longtemps à ciel ouvert et puis une mine souterraine depuis
cinquantaine
d'années.
Au milieu des années 60, elle était d'abord exploitée en open pit et puis maintenant c'est une mine souterraine, c'est la plus grande mine de fer au monde, elle est située donc au nord du cercle polaire, hein, à 160 km au nord de cette ligne fictive, une autre ligne, une autre représentation.
Mais qui vous fait rêver dans l'avion.
Et qui, évidemment, parce qu'en fait, c'est vrai que l'idée d'aller au nord du cercle polaire est donc, pour le coup, mobilisant ces vieilles représentations, ça me fascinait beaucoup avec l'idée du point, le nord comme le point magnétique, hein, aussi cette espèce d'orientation qui nous aimante, qui nous attire. Et finalement, peut-être pour continuer dans les traces de cette conversation qu'on vient d'avoir, enfin à laquelle je viens d'assister avec à propos de Terraforma, c'est vrai que immédiatement il a été question de rentrer dans la Terre et donc peut-être pas de la retourner, mais au moins d'aller en explorer l'intérieur. Alors c'est une mine qui est actuellement exploitée jusqu'à moins 1365 mètres. Moi je me suis arrêtée à un palier à 1514, c'était difficile de descendre en dessous. Pour autant, cette plongée sous terre, elle a été un moment assez inaugural parce que effectivement, c'est des mondes auxquels on a peu accès, ou alors on y a accès à l'aide d'instruments fascinants que sont les cartes, que sont cette façon qu'on peut avoir d'arriver à entendre aussi, hein, toutes ces phénomènes de son, d'écho, qui ont donné lieu à des disciplines qui sont à l'origine même de la recherche géologique, en tout cas d'instruments qui concernent la géologie. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience intéressante. Cela dit, j'étais un peu frustrée de ne pas descendre plus bas. Et ce que m'a enseigné cette virée à Kiruna, c'est que finalement, je n'avais pas forcément accès à vers quoi j'avais tant désiré me diriger. Mais donc pas forcément la mine, mais une zone qui est donc une zone critique qu'on pourrait appeler aussi un territoire, mais peut-être plus encore qu'un territoire, justement, parce que celui-là est quand même une friction majeure, c'est-à-dire la combinaison ville-mine qui naît à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui connaît un destin absolument stupéfiant dans la mesure où une partie de cette ville bascule dans les ruines qui sont de fait des ruines du capitalisme au sens où l'exploitation de la mine a engendré un affaissement des couches souterraines du sol qui supportent le sol, ces couches sur lesquelles s'appuient nos existences, et bien elles s'effondrent, elles s'effritent, elles se cassent, on ferme des quartiers à Kiruna et on a entrepris de déménager la ville. Et alors ça, c'est vrai que pour le coup je me suis dit c'est vraiment une zone qui est pour moi un espèce de modèle peut-être, ou un exemple en tout cas, si ce n'est pas un modèle, de ce que peut être aujourd'hui le monde que nous habitons, hein, c'est-à-dire extrêmement actif, vivant, qui fait coexister plusieurs mondes, et notamment un monde qui n'est pas regardé dans ce livre-là, qui est celui plutôt de du Grand Nord et des autres cultures, des cultures nomades, lapones, qui pratiquent l'élevage. Et il y a ce territoire où les permis de forêt sont distribués à tour de bras et où voilà, il y a cette activité minière qui engendre des mouvements, des migrations, des déménagements. Et toutes ces frictions sont absolument passionnantes et me disaient, mais finalement, voilà, il se passe ici quelque chose qui nous enseigne aussi quelle est la nature du monde dans lequel nous vivons.
Frédéric Aïtouati, vous avez lu Kiruna, vous y avez retrouvé, écrit autrement, une forme d'expérience proche de celle que vous faites avec les cartes potentielles.
Moi, j'ai été absolument passionnée par ce texte, comme je peux l'avouer, tous les textes de Maïlys de Kerangal, mais celui-là, effectivement, juste après avoir écrit Terraforma, m'a donné un sentiment de fraternité, de sororité, disons-le, plutôt extrêmement puissant, puisque c'est un récit d'exploration que vous faites par la littérature, par c'est en même temps une enquête, c'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la fiction, on n'est plus dans le roman. Et en même temps, finalement, c'est très proche de l'enquête que nous avons essayé de mener, sauf que nous trois, on n'est pas descendus dans une mine, mais par le dessin, on essaye de sentir effectivement ce sol mouvant dont vous parlez, qui est ce sol qu'on n'a pas encore appris à saisir. Et c'est comme si on essayait tous, en ce moment, par nos moyens d'anthropologues, d'historiens, d'écrivains, d'architectes, de géographes, de faire sens de ce sol nouveau dont on apprend à saisir les soubresauts.
On assiste peut-être en ce moment à une espèce de recherche autour de l'écriture, en fait, parce que ce que ça met en jeu, en fait, c'est pratique, et je regarde Terraforma autant que Kiruna, c'est les enjeux d'une nouvelle écriture, finalement, qui pourrait décrire, donner une représentation et donner aussi une émotion qui est celle que l'on a à habiter ce monde abîmé, mais ce monde qui recèle encore des nouvelles possibilités de vie. Et pour cela, ce qui m'a beaucoup marqué, et je le vois dans Terraforma, et je le vois aussi dans certains travaux que j'ai, et dans certains livres tout simplement que j'ai pu lire récemment, qu'il n'y a pas seulement l'idée de sortir les disciplines de leur clou académique, mais vraiment de les activer ensemble. C'est-à-dire, dans Terraforma, je vois qu'on convoque aussi la philosophie, la littérature, le graphisme, la biologie, la géologie, la minéralogie, etc. Et c'est vrai que la littérature de contact, hein, ce qui serait un peu mon idéal, c'est-à-dire une écriture à la culotte des choses, comme j'écrivais dans Le Pont, ou vraiment au ras du sol, cette écriture de pistage, pour moi, elle doit mobiliser aussi ces écritures, en tout cas ces mouvements de pensée, qui sont aussi des émotions et des écritures avec une teneur cognitive peut-être plus exaucée. Et ça, pour moi, c'est un peu un chemin à venir. C'est-à-dire, c'est aussi ce qui m'anime. Cette idée de que l'enquête ressemble à un pistage et que ce pistage va mobiliser d'autres compétences que celles de la littérature à proprement dite et d'autres cultures aussi, hein. Une espèce de qu'on veut les faire collaborer, comme le dit Anne Hatzing, les faire collaborer, hein, être dans cette espèce d'échange collaboratif. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que chacun est à produire sa propre carte pourrait devenir une espèce d'image littéraire en soi. Un livre peut être aussi, dans ces cas-là, la représentation d'une cartographie intérieure. Et je trouve ça assez passionnant.
Ces propos de Maïlys de Kerangal illustrent ce dont nous parlions déjà la semaine dernière avec Laurent Demanze et Emmanuel Pirère dans l'émission sur la place centrale désormais de l'enquête, aussi bien en littérature que dans les sciences humaines et sociales, et la possibilité de l'articulation des deux. Ce que j'entends aussi dans ce que dit Maïlys de Kerangal, c'est à la fois de l'ancrage dans un territoire singulier, sur un sol ou dans un sol particulier, et en même temps l'idée de ne jamais perdre de vue finalement le goût de l'encyclopédie, au fond, de tous les savoirs. Ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus fréquemment.
Oui, et le goût de l'encyclopédie et le goût de l'exploration et de la découverte, qu'elle soit intellectuelle ou terrestre. Et ce qui est très beau dans ce texte Kiruna, c'est qu'on a cette envie de découvrir qui reprend les affects de l'exploration finalement, mais qui les réoriente à l'intérieur de la Terre. Et c'est là que je sens une très très forte proximité, mais également avec effectivement le livre d'Anne Hatzing ou d'autres textes qui tentent non pas de dire arrêtons. Arrêtons d'explorer, arrêtons de découvrir, il faut qu'on... Mais quelque chose qui réoriente les puissances d'imagination. Et c'est cette idée de terra incognita qui fait qu'on a à la fois effectivement ce mélange des disciplines qui nous paraît absolument essentiel à tous aujourd'hui, mais aussi cette référence singulière qui revient à la Renaissance. On parlait des cosmographes tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de ressaisir et de remobiliser ce désir de découverte. Parce que cette terre, finalement, on la connaît très mal.
Axel Grégoire, sur quelle place vous pouvez ménager dans des projets précis sur lesquels vous travaillez pour la littérature, la fiction, parce qu'à côté des images, à côté des représentations visuelles, il y a les mots, et les mots, c'est pas forcément la démonstration, l'argumentation, ça peut être aussi d'autres registres. On parlait de description, par exemple, ou d'évocation.
C'est vrai que la place du récit dans les projets urbains est très importante, que ça soit des récits fondateurs ou ce vers quoi on va plus,
nous,
c'est-à-dire
à
la multiplication des récits, en tout cas donner la possibilité d'entendre différentes voix et différentes fictions. Ce qui est intéressant, c'est aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est comment effectivement ces deux explorations parallèles, soit de notre côté par le dessin, soit par l'écriture, amènent à finalement la même chose, c'est-à-dire la révélation de l'invisible. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont la description montre les effets du rapport sous-sol et surface, et que finalement c'est par aussi tout ce qui se passait au-dessus qu'on parlait de ce qui se passait en dessous, et qui rendait très solidaire justement cette entité mine-ville, en fait. Et de la même façon, cette exploration par l'écriture qui révèle, en fait, les cartes qu'on montre, elles peuvent se raconter aussi. C'est-à-dire, c'est des cartes qu'on pourrait raconter sans les voir. Et je pense qu'il y a une coïncidence très forte entre la carte et l'écriture et le récit.
Bien sûr. Et d'ailleurs, alors, ça trouve une expression assez belle, et en tout cas assez, que j'ai pensé à un moment assez ultime dans l'histoire des songlines des aborigènes, la cosmologie des aborigènes d'Australie qui ont une représentation du monde qui passe par l'acquisition et la transmission d'un certain nombre de chants. Ces chants étant la description topographique, étant de longs toponymes chantés et des descriptions topographiques. Et finalement, on se disait souvent qu'en rassemblant ces chants, on aurait une carte, on pourrait bâtir la carte, mais on aurait aussi un grand récit cosmogonique. Et pour moi, les choses, on avance comme toujours sur deux plateaux. Et c'est sensible à ce que vous venez de dire quand vous dites que justement tout la surface et l'intérieur sont tout le temps en communication, enfin en tout cas sont intrinsèquement liés parce que tout est organiquement vivant. Et c'est aussi ce monde-là dans lequel on vit. Et je me disais même tout à l'heure, quand je vous écoutais, vous, Axel, parler finalement de la définition des modèles, on pourrait faire une analogie avec le corps humain. C'est vrai que explorer votre livre Terraforma nous demande à chaque fois un exercice mental qui est d'isoler un sens parmi d'autres et de le reconfigurer. Mais c'est un petit peu la même chose quand, dans des exercices physiques, on vous demande de mobiliser plutôt tel muscle ou d'écouter telle partie, des choses qu'on connaît aussi mal, parce qu'on connaît aussi assez mal notre corps. Et je me disais, c'est exactement ça. Il faut isoler un modèle, une intention, un mouvement, un geste, et essayer de voir ce qu'il donne quand on l'active seul dans un premier temps, et puis peut-être quand on le rassemble avec d'autres. Je pensais beaucoup à Nord et puis à Point de Vie aussi, qui s'entend déjà de manière isolée, et puis après qui se comprend quand on y ajoute finalement mémoire, source, et quand on fait collaborer justement les autres modèles que le livre propose et invente.
Propose, parce qu'il s'agit de les utiliser, de s'en saisir pour les faire fonctionner dans des situations diverses. Donc ces modèles, on les retrouve dans Terraforma, livre de Frédéric Aïtouati, Alexandra Arène et Axel Grégoire, publié aux éditions B42. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission, La Suite dans les idées. On trouvera également la référence du livre de Maïlis de Kerangal, Kiruna, qui paraît aux éditions La Contre-Allée. Sur la page de l'émission, vous pouvez également réécouter cette suite dans les idées et puis vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchane Djergaillon, à la technique Valérie Lavalard, à la réalisation Anne Pérez Franchini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.